Ce matin, on va plutôt parler de deux choses. Premièrement, aimer, c'est quoi? Ça peut vous intéresser éventuellement. Qu'est-ce que ça veut dire que l'aimer, l'amour? Et puis ensuite, on va parler de l'échange des consentements. Vous savez que donc l'échange des consentements fait partie de votre vie matrimoniale, c'est le cœur de votre vie matrimoniale. Et j'en profite pour vous dire comment est pensé le sacrement du mariage. C'est intéressant de voir comment l'Église a reçu ça du Seigneur, hein, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Vous savez qu'un sacrement, on l'évoquera un peu dans la suite, un sacrement, c'est un signe visible, eh bien, d'une grâce invisible, de cet amour de vous voulez être signe, puisque vous frappez à la porte de l'Église, vous voulez être signe de l'amour invisible du Christ, c'est-à-dire quand je vois Gertrude et Gaston, j'ai quelque chose de l'amour du Christ qui est là et qui se manifeste, et de cet amour du Christ. C'est pour ça que vous demandez à l'Église un sac, vous voulez être signe. Alors, peut-être on ne prend pas toujours conscience, ou vous ne prenez pas toujours conscience de à quel point c'est important, mais c'est vrai que comment est-ce qu'on connaît l'amour de Dieu, surtout nous comme chrétiens? Eh bien, cet amour de Dieu, on le découvre par l'amour des frères, des sœurs, du prochain, et particulièrement par l'amour de ses parents. Et donc, du coup, et de son conjoint. Donc, c'est et chaque couple est comme un rayon de cet amour du Seigneur. Chaque couple est comme une manière de dire cet amour. Et c'est pour ça, entre autres choses, que c'est ce qu'on appelle indissoluble. Hein, vous êtes, j'imagine, une préparation au mariage à l'extérieur de. Hein, comme je l'ai dit hier, ça ne peut pas servir ce week-end de préparation au mariage. Ça, c'est pas du tout possible. Il faut, j'imagine, que vous êtes accompagné soit par un prêtre, soit dans le cadre d'une paroisse. Mais en tout cas, je crois que c'est important de se dire que vous voulez être dans ce week-end, remettre l'attention sur cet aspect spirituel aussi. Je veux demander au Seigneur non seulement qu'il vienne bénir l'amour que j'ai pour mon futur époux, ma future épouse, mais aussi je veux demander d'inaugurer de façon particulière à deux une manière de témoigner de l'amour du Seigneur auprès de mon entourage, etc. Avec, bien sûr, mes imperfections, avec mes difficultés, avec mes blocages, etc. Bien sûr. Mais c'est là où je trouve ça très beau, la confiance que le Seigneur vous fait. Ça, ayez vraiment une totale certitude de la confiance que le Seigneur vous fait en vous permettant de vous donner l'un à l'autre donc ce sacrement. Donc, le sacrement du mariage, comment est-ce que c'est construit? C'est d'abord, ça commence par une parole. Hein? D'abord, là, il y a la parole. Cette parole que vous vous donnez l'un à l'autre, qui est l'échange des consentements. Ensuite, cette parole, elle s'exprime dans le don du corps. Et cette parole exprimée dans le don du corps, elle s'incarne, pour ainsi dire, et cette parole exprimée dans le don du corps rayonne dans une fécondité. Donc vous avez un tiercé dans l'ordre qui est parole, corps, fécondité. C'est comme ça qu'au fond. Alors, moi, je vous pose des questions. Aussi, vous pouvez poser des questions, mais moi aussi, je vous poserai des questions. À quel autre sacrement ça vous fait penser qui est construit comme ça? Parole, corps. Que vous connaissez par cœur. Ben, l'Eucharistie. L'Eucharistie, tu as d'abord la liturgie de la parole, ensuite tu as la liturgie du corps, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et ensuite tu as la fécondité, la communion, aller dans la paix du Christ. Vraiment, voilà, soyez les témoins de mon amour par cette communion que je. Donc, c'est intéressant. Et puis, quand on voit même aussi la manière dont le Seigneur lui-même se révèle, et Dieu dit, au commencement, et Dieu dit, et puis cette parole, elle s'est incarnée dans les prophètes, elle s'est incarnée évidemment en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair, et puis nous, par son Saint-Esprit, nous pouvons ben, être proches de lui et rayonner de sa vie, il vient féconder notre vie. Donc voilà un peu, juste pour. Alors aujourd'hui, les choses parfois sont un peu différentes, et peut-être les uns, les autres, l'un ou l'autre sont dans des situations différentes, et on voit bien des couples qui arrivent à la paroisse, particulièrement, bien, ont déjà une vie commune, ont souvent des enfants. Donc, c'est vrai que, du coup, quelque part, la parole qu'ils veulent se donner veut reprendre aussi cette vie commune et veut reprendre, eh bien, cette fécondité qu'ils ont déjà. Mais c'est intéressant de découvrir aussi que comment faire pour que quelque part il y a un ordre dans l'amour. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Il y a un ordre dans l'amour et que cette parole, que c'est sur cette parole-là que vous allez fonder votre existence. Et ça, ça me fait penser évidemment, et vous aussi, à Pierre qui avec la pêche miraculeuse, hein, sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets. Bien sur la parole que vous voulez donner l'un à l'autre, eh bien vous voulez aussi avancer en eau profonde. Et vous voulez construire quelque chose de durable. Donc, quelque chose qui a à voir. Donc, méditer sur la question de l'amour, c'est un peu d'abord ça. Ensuite, on verra la question de... Autant en français, la notion est plus que galvaudée, autant en grec, elle est plus riche, puisqu'il y a trois manières de dire aimer en grec. La première manière, c'est eros. La deuxième, philia. La troisième, agapé. Et chaque manière de dire dit quelque chose de l'amour. Et c'est intéressant de reprendre le grec. Eros, ça veut dire quoi? Alors, ça vous fait penser bien sûr à érotique, mais c'est bien plus vaste que ça. C'est je vais me compléter dans l'autre, savoir avec un plaisir immédiat qui fait que, quelque part, dans l'autre, la moitié qui me manque, en particulier dans la vie de couple, voilà, je cherche quelque chose qui me donne du plaisir et qui va me compléter. Alors que dans philia, donc c'est un amour quelque part, Eros, c'est un amour qui prend. Alors que philia, c'est l'amour, ce qu'on appelle l'amour d'amitié. C'est un amour qui prend et qui donne, c'est un échange. Et prenez conscience que la vie matrimoniale s'inscrit dans un amour d'amitié. C'est pas parce que vous allez vous marier que vous cessez d'être des amis. C'est parce que ça a commencé, faites mémoire de votre histoire, comment ça a commencé, comment est-ce que vous êtes assis devant moi aujourd'hui, c'est que au début ça a été une amitié. Au début, on parle, puis on voit qu'on a des tas de choses en commun, on voit qu'on a des... voilà, et puis progressivement, on se dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un bout de chemin ensemble? Ah ben oui, et ben, etc. Bon, et les cœurs s'ouvrent, etc. Donc, mais prenez conscience que vous restez des amis. Et vous restez les meilleurs amis. Ben, c'est à souhaiter. Donc, c'est intéressant de voir nous-mêmes, au fond, comment... Et c'est entre... L'amour, l'amitié qu'on peut avoir avec nos amis proches et l'amour, il y a une différence, ça c'est Aristote qui en parle, je vous ai dit hier que je m'étais beaucoup formé à la philosophie d'Aristote, mais Aristote il dit il y a une différence de degré, il n'y a pas une différence de nature. C'est la même nature entre un ami, l'amour que vous avez pour un ami, et l'amour que vous aurez pour votre époux. Mais il y a une différence de degré. Et c'est quoi cette différence de degré? C'est le fait que cet amour d'amitié, ben vous voulez l'enraciner dans une vie commune, dans une communauté de vie et d'amour. C'est ça le mariage, c'est une vie ensemble. Et on sait bien, les amis, ils aiment bien avoir se voir, ils aiment bien être ensemble, etc. Ils ont ce désir de vraiment habiter le cœur de l'autre. Et comment est-ce qu'on voit qu'on est amoureux et amoureuse? Eh bien, c'est que l'autre nous manque quand il n'est pas là. Si vous êtes mieux quand l'autre n'est pas là que quand il est là, il faut vous poser les bonnes questions. Parce que précisément, voilà, elle est partie. Ah, quel soulagement. Alors ça va beaucoup mieux depuis qu'elle est partie au travail, je sais pas quoi, ou voir sa mère. Bon, normalement, voilà. Au contraire, vous n'avez de cesse que de passer du temps ensemble. Hein? Et ça, je pense que de ce point de vue-là, c'est cette vie commune, ce temps. Et c'est un temps, et je pense aussi, la préparation au mariage, c'est vraiment quelque chose de prioritaire, que ce soit prioritaire dans votre année, en tout cas, pour ceux qui ont déjà fixé, tous n'ont pas fixé leur date de mariage, certains sont peut-être en discernement, etc. Mais pour ceux, en tout cas, qui avancent vers... Que cette préparation au mariage soit un vrai travail, j'aime à dire, c'est un travail à plein temps. Bon, c'est un peu exagéré, mais ça veut dire aussi que vous allez y consacrer de l'énergie. Parce que aimer n'est pas spontané. Aimer d'un amour d'amitié n'est pas spontané. Et malheureusement, les statistiques sont là pour montrer que bien nombre de couples explosent en vol. Hein, et donc, du coup, parce que justement, qu'est-ce que je mets en place pour construire un amour durable? Parce que je trouve ça qui est très beau dans la préparation au mariage. Comme je vous l'ai dit hier, c'est l'essentiel de mon ministère, c'est la préparation au mariage. eh bien, ce que je trouve très beau, c'est que ça fait écho en nous, la vie, le rapport avec l'autre fait miroir, fait écho en moi de ce que je peux porter. Et donc, du coup, forcément, il y a des choses que je vais découvrir, à la fois des capacités d'amour, mais à la fois des blocages, à la fois peut-être des colères, à la fois des réactions disproportionnées. Et donc, il n'y a pas, à ma connaissance, de préparation au mariage sans, d'une manière ou d'une autre, un travail sur soi-même. Hein, parce que, justement, ça remue beaucoup de choses. Et arrêtons de croire à une certaine spontanéité, hein, de l'amour. Bien sûr que, bon, vous êtes porté d'un pardon, mais si le Seigneur a fait de l'amour un commandement, et c'est même le commandement nouveau, hein, aimez-vous les uns les autres, c'est le commandement nouveau, c'est que justement, aimer n'est pas si simple que ça. Sinon, l'amour ne serait pas un commandement. Donc, et c'est important aussi que vous puissiez, dans votre cheminement, dans votre histoire, peut-être pointer les manques d'amour, les égoïsmes, les difficultés à vous accueillir l'un l'autre, les difficultés à accueillir vos familles respectives, parce que vous n'êtes pas non plus sur une île déserte, même si les amoureux voudraient absolument être seuls au monde, c'est pas la réalité. Vous rentrez aussi dans une communauté plus vaste, qui est celle de vos familles, de vos proches, de vos amis. Donc c'est intéressant de se dire, comment est-ce que, déjà depuis le début de notre histoire, comment est-ce que j'ai bougé intérieurement? Ça ne peut pas ne pas vous faire bouger. Ça me paraît très aberrant, je veux dire. Ça ne peut pas. Déjà, le fait d'entendre quelqu'un dire « je t'aime », forcément, ça bouscule à l'intérieur. Mais en plus, non seulement d'entendre le dire, et que ce soit réciproque, mais en même temps, de voir à quel point ce temps passé ensemble, eh bien, ça va être un temps de discernement pour justement découvrir est-ce que je suis capable de vivre en termes de communion de caractère, par exemple, est-ce que je suis capable de porter, voire supporter le caractère de l'autre. Je pense à plusieurs choses. Par exemple, le rapport au temps. Le rapport au temps. C'est rare qu'on parle du rapport au temps dans la préparation au mariage. Mais le rapport au temps, à mon avis, est quelque chose qui est quotidien par définition. Il y en a qui sont toujours à l'heure, il y en a qui sont toujours en retard. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un couple où l'un est dans une case et l'autre dans l'autre? Parce que ça peut vite tendre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut vite tendre, c'est-à-dire que ça peut vite chauffer. Je veux dire. Et surtout quand c'est répétitif. Et puis, si vous voulez, le rapport au temps... et on n'y pense pas, parce que, ou alors, j'accompagne un couple, bon... elle est du matin, lui, il est du soir. Bon, jusque-là, on se dit, mais où est le problème? Oui, mais disons, où est le problème? En tant que tel, ça ne pose pas de problème, mais simplement qu'elle, à 9h30, il n'y a plus personne, c'est coucou, je panier, papa temps rond, prof, complètement explosé. Et lui, à 1h, il est encore en train de faire ses affaires, etc. Mais en revanche, pas avant 10h, en tout cas les week-ends, il n'y a personne non plus. Donc, or, il me semble, en tout cas comme couple, c'est important aussi de s'endormir ensemble, ou quoi, de se mettre dans le lit matrimonial ensemble. Donc, vous voyez comment, au fond, ça va demander un travail aussi, un ajustement. Alors, vous ne demandez pas, il ne faut pas changer l'autre, ça c'est le grand piège de vouloir changer l'autre. Mais il faut penser que ce temps de préparation au mariage est un temps de discernement. C'est un temps de discernement. Et de ce fait-là, c'est un temps du travail, de l'intelligence et de la volonté. Est-ce que je suis capable de vivre avec... Est-ce que nos caractères vont s'ajuster? Il y en a qui sont, par exemple, qui ont des caractères plutôt qu'on appelle primaires, c'est-à-dire qui réagissent, qui sont très prompts à la réaction, très bons. Et puis, il y en a qui ont plus des caractères secondaires, qui mettent tout un temps avant de réfléchir, et au bout de 2 heures, ils te disent une parole. Bon, par exemple, Alors, si toi, tu es au contraire impulsif ou impulsif, etc., tu réagis autant que... Et l'autre, il met 2 heures avant de dire une parole. Là aussi, ça peut tendre. Mais vous voyez, c'est des trucs bêtes. Je veux dire, c'est des trucs... votre vie matrimoniale, les vraies questions dans votre vie matrimoniale, c'est pas d'abord des questions théologiques. À moins que vous soyez disputé sur la question des... de la Trinité, ou est-ce que ça fait partie... Bon, ça peut être des rapports à la foi, mais ça, on viendra. Mais les questions de votre vie matrimoniale, c'est des questions hyper concrètes. Et d'où l'importance, dans la préparation au mariage, ça c'est la grâce dans l'Église, en tout cas, qu'on vous offre ce temps de préparation au mariage. À la fin du mandat de Sarkozy, il avait timidement, ou le ministre de la Famille, le secrétaire de la Famille, avait timidement évoqué la possibilité de faire une préparation au mariage civil. Moi, je suis pour une préparation au mariage civil, et pour donner au mariage civil, même s'il y a eu quelques lois ces derniers temps un peu spéciales, mais pour donner au mariage civil, en tout cas, une notion d'engagement. Pour beaucoup, leur engagement, ce sera le mariage civil. En tout cas, bon... Et j'avais été voir un maire quand j'étais en Alsace, j'avais été voir un maire, parce qu'en Alsace, il y a le concordat. Donc c'est moins crisiaque que dans la France de l'intérieur, où voilà, où là on veut rien avoir avec l'église, etc. Est-ce que là, bon, il y a une amitié plus grande. J'ai été voir un maire d'une commune comme ça, et je lui ai dit, mais voilà, ça se venait de sortir, vous en pensez quoi de la préparation au mariage civil? Et lui, il me dit, mais on ne saurait pas faire. Nous, on fait de l'administratif. Nous, notre métier, c'est le registre d'état civil. C'est lire les articles du code. Vous pouvez, par exemple, essayer de mettre un chant, par exemple, pendant le mariage civil. Donc, vous pouvez toujours essayer. Non, mais c'est marrant parce que les gens, dès qu'il s'agit de l'église, ah bah tiens, on veut ce chant-là, etc., allumer le feu, etc. Non. Alors que, ah oui, mais vous n'êtes pas ouvert à allumer le feu à la mairie. Allez voir ce qui se passe. Donc c'est intéressant de voir que, en parlant avec ce maire, qui était vraiment de bonne foi, etc., et puis tout à fait ouvert, ça disait, ça nous demanderait à nous, comme mairie, par exemple, tout un cheminement, parce qu'on n'est pas habitué, on a de l'accompagnement social, oui, ça oui, on a ça, des assistantes sociales, ça on sait faire, hein, mais en termes de préparation au mariage, on serait vraiment démunis. Ou il faudrait nous donner un kit. Et puis, qui dit préparation au mariage, dit aussi une certaine vision du mariage, et vision de la personne humaine. Hein? Mais bon, toujours est-il, juste pour vous dire que c'est important que ce temps de préparation que vous avez, c'est un temps où l'intelligence travaille, où le cœur travaille, pour discerner. D'où la question, une autre question qui me vient aussi, la question de la liberté. Il me semble que vous le savez, ben, vous, si vous avez vu ça avec dans les paroisses ou avec un prêtre qui vous accompagne, il y a quatre piliers, on peut dire, ou certains disent une condition et trois piliers, dans le mariage à l'Église catholique. Le premier, c'est la liberté, librement et sans contrainte. Je vais vous donner tout à l'heure le texte. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'indissolubilité, c'est-à-dire pour la vie. Troisième, c'est fidélité. Et ensuite, fécondité, l'ouverture à la vie. Il me semble que aujourd'hui, le pilier ou la condition qui est peut-être la plus difficilement respectée ou qui est peut-être mise en difficulté, c'est la question de la liberté. Alors vous me direz pourquoi ? Pourquoi ? Parce que on a vraiment l'impression d'avoir choisi librement et sans contrainte. Je veux dire, pourquoi ? Parce que pour plusieurs raisons. Premièrement, pour des raisons matérielles. Quand j'accompagne les fiancés, il n'est pas rare que quand ils viennent me voir, ils aient déjà réservé la salle ou le restaurant ou le traiteur ou le machin un an à l'avance. Verser des arts. Réserve déjà pris pour la robe de mariée, le DJ, etc., etc. Bon. Des tas de choses qui font que je me dis, mais où est votre... Maintenant, on rentre dans la préparation au mariage, où est votre espace de liberté maintenant? Est-ce que les jeux sont faits ou pas? En tout cas, sachez qu'aux yeux de l'Église, les jeux ne sont absolument pas faits. Et que jusqu'à l'entrée dans l'Église, alors si vous pouvez le faire avant, c'est mieux, parce que là aussi ça peut tendre, mais jusqu'à l'entrée, vous pouvez dire non. Donc, et parfois c'est le dernier rempart. Mais juste la question de la liberté, et puis aussi de la liberté aussi. Mais donc, sentez-vous très libre au point matériel, parce qu'il ne faut pas que les questions matérielles Bien sûr qu'on comprend qu'il faille réserver, bien sûr qu'il faut faire la fête et une belle fête, etc. Je comprends ça. Mais il ne faut pas que ça vienne parasiter votre discernement. Parce que sinon, et surtout, j'allais dire, dans des milieux un peu bourgeois, etc., où là, c'est toute une machine qui se met en route, et en plus, si on a envoyé les faire-part, on sent vraiment, c'est le rouleau compresseur qui avance, et en tout cas, je vois ça, bon, bah, vous êtes libre face au rouleau compresseur, sentez-vous archi-libre. Mais il peut y avoir aussi, au plan des amis, parfois des pressions amicales ou même de la famille. Alors, c'est pour quand ça, tu vois, dès que tu commences à fréquenter, dès que tu commences à avoir une histoire, etc., bon, on te pose la question, c'est pour quand alors, oui, des petites choses qui se veulent gentilles, mais qui mettent la pression. Et donc, moi, je vous invite, en tout cas, à réfléchir et en particulier, en tout cas, le fait, il y a certains d'entre vous qui vivent déjà ensemble pour des X raisons. Et quand j'accompagne aussi des couples qui ont déjà une vie commune avant le mariage, je leur pose la question, où a été votre espace de liberté? Première question, c'est-à-dire, parce qu'évidemment, une vie commune, a fortiori quand il y a des enfants, dans le genre engageant, c'est pas mal. Je veux dire, quand il y a des enfants, surtout, c'est plus le temps du discernement, c'est le temps d'avancer, quoi. Et puis ensuite, mais je dis, bon, vous avez fait ce choix-là pour X raisons, où est-ce que, à un moment donné, vous vous êtes dit, voilà, j'ai senti, voilà, que c'était une certitude intérieure, que c'était lui, que c'était elle. Et donc, de ce point de vue-là, parce que j'ai parfois peur que le fait de se mettre déjà en concubinage avant le mariage, ce soit le fruit de non-choix. C'est-à-dire que ce soit le fruit de... par exemple, moi je pense, voilà, on habite tous les deux la même ville. Et puis il se trouve que le soir, ben, on le passe chez l'un, chez l'autre. Et on se dit, ben, c'est un peu ballot, quoi. On va pas louer deux appartements. Allez, hop, hop, hop. On résilie. Ben oui, ben voilà, mais sans penser qu'une vie commune, mais c'est hyper engageant. Donc, est-ce que, et sans penser que, avant cet engagement, où a été le discernement? Je dis ça parce que si c'était si évident que ça de vivre ensemble, eh bien, malheureusement, on ne connaîtrait pas la quantité de séparation que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ma question, et puis je pose aussi une autre question, en quoi le mariage, dans ce cas, va être un avant et un après? En quoi le mariage va être un avant et un après? Maintenant, la question de la vie ensemble, il ne faut pas être idéologique là-dessus. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Il m'est arrivé de conseiller à des couples, par exemple, de partager la vie commune avant le mariage. Pourquoi? Tout simplement, je pense à un couple qui habite Buenos Aires, lui partait là-bas. Ils avaient déjà un an et demi déjà de fréquentation, d'histoire, ils étaient même fiancés. Et puis, ils partaient pour des raisons professionnelles là-bas. Et puis, bon, pendant un an, on ne peut pas vivre une relation amoureuse à distance. C'est quand même très compliqué. Justement, les amis veulent être ensemble. Et du coup, ben voilà, elle a décidé de le rejoindre, et puis bon, ils ne vont pas à Buenos Aires de louer deux appartements, ça ne voudrait rien dire. Donc, du coup, juste pour vous dire, il ne faut pas en faire... Mais il y a eu un moment, en tout cas, où ils ont discerné, où ils ont... Pour dire, voilà, c'est aussi pour nous aider à cheminer dans notre amour, nous avons besoin de ce temps commun. La troisième forme d'amour, c'est ce qu'on appelle l'agapé. L'agapé, c'est l'amour à la manière de Dieu. Et c'est intéressant de voir que c'est un nom qui a été inventé, au fond, par les chrétiens. C'est un amour, autant l'éros, c'est un amour qui prend, le philia, c'est un amour qui donne et reçoit, autant l'agapé, c'est un amour qui est uniquement dans le don, sans attente de retour. C'est un amour à la manière de Dieu. C'est l'amour, c'est ce qu'on appelle la charité, l'amour de charité. En tant que tel, évidemment, cet amour-là, c'est l'amour le plus grand. Maintenant, j'attire votre attention sur une chose, que ce qui fait le cœur de l'amour matrimonial, ce n'est l'agapé, bien sûr, l'amour de la manière de Dieu, mais ce qui en fait le cœur, c'est la philia, c'est l'amour d'amitié. Je dis ça pourquoi? Il m'est arrivé d'accompagner des couples où, au fond, il y avait un désir de... On aimait l'autre pour le sauver. Vous voyez, l'autre est dans une situation de dépression, une situation de fragilité quelconque. Voilà, c'est un peu le Saint-Bernard, le chien Saint-Bernard, vous voyez, avec ses grandes oreilles, avec le tonnelet de Rome. On arrive là pour sauver l'autre, voilà, de façon parfois inconsciente. Et c'est pas ça l'amour matrimonial. L'amour matrimonial, c'est que chacun rentre dans une logique de don à l'autre, et d'un don qui soit réciproque. Donc c'est intéressant de voir que de vous vérifier où est-ce que vous en êtes maintenant de votre qualité d'amour, de votre manière de vous aimer, de votre relation, où est-ce que premièrement, donc il y a plusieurs conditions, et ça c'est Aristote qui parle à l'amitié, premièrement c'est la réciprocité. Ça veut dire quoi la réciprocité dans le sens d'un amour conjugal, d'un amour matrimonial vers lequel, en tout cas, vous vous dirigez pour la plupart d'entre vous. Ça veut dire que chacun est aussi à l'origine de cette relation. C'est pas simplement l'un ou l'autre qui fait les efforts. Il y a une réciprocité. Chacun est aussi fédérateur et source d'initiative. Si c'est à chaque fois moi qui appelle, si c'est à chaque fois moi qui propose des initiatives pour notre couple, propose des initiatives de sortie, des initiatives de rencontre, de je sais pas, et que je sens que de l'autre côté, ben il y a pas grand chose. Forcément, ça, à un moment donné ou l'autre, vous allez vous lasser. Ça, c'est très clair. Parce que c'est pas tant les différences entre les fiancés qui me font peur que les déséquilibres. Et entre autres, dans les déséquilibres dans l'amour. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y en a un qui est plus attaché que l'autre. On sent qu'il y en a un qui est plus en demande que l'autre. Alors, là encore... un peu des faits vécus, donc un jeune couple, très jeune couple, 23 ans, donc c'est vraiment tout jeune, et on sent, en tout cas elle, je sens, elle est très en demande de manifestations, de tendresse, d'amour, de voilà, par exemple, elle appelait au travail, elle envoyait des petits SMS 3-4 fois par jour au travail. Alors jusqu'au jour où on a parlé de ça, on s'est dit, ça c'est plus possible ça. Non mais vous voyez c'est pas mature parce qu'il y a comme le besoin de se sentir ah mais tu m'as pas dit 3 fois je t'aime aujourd'hui mais au secours je veux dire si je dois dire 3 fois je t'aime aujourd'hui ça va, on va où dans 30 ans on va dans le mur. Donc c'est important de voir que chacun a aussi des attentes différentes à ce qu'on appelle des langages de l'amour. Vous avez peut-être lu le livre de Gary Chapman, je vous conseille bien les langages de l'amour, chacun, mais aussi c'est important de voir d'arriver à une certaine autonomie. C'est-à-dire, il y en a qui sont plus en demande d'être rassurés quelque part dans leur relation, et d'autres qui sont plus autonomes. De ce couple-là, par exemple, il était parti à l'étranger, mais pour lui, c'était clair, il était, je pense qu'il était même fiancé avant, mais on va revenir sur les fiançailles, etc. C'était assez clair pour lui. Donc du coup, mais il n'avait pas ce besoin de alors qu'elle est très affective, très en demande, très bon. Et donc du coup, c'est intéressant de voir que elle a vécu douloureusement le fait de ne pas avoir assez d'appels, assez de manifestations, assez de parce que lui était plus autonome et puis elle plus dépendante. Ça peut être aussi l'inverse. Donc et du coup, moi j'ai attiré l'attention parce que ça dans le genre bombe à retardement, c'est pas mal. Parce que, à un moment donné, l'autre, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est-à-dire, soit tu es sûr de mon amour, c'est ça la confiance, c'est être sûr de l'amour de l'autre en l'absence de l'autre. Soit si à chaque fois, il faut qu'on s'envoie SMS, et puis ensuite il faut qu'on se téléphone, ensuite qu'on se Skype, et ensuite qu'on se machin, et éventuellement qu'on se rencontre, ça ne va pas le faire, quoi. Donc là aussi, essayez pendant la retraite de voir où est-ce qu'il y a une certaine équilibre dans les initiatives, équilibre, une réciprocité. Est-ce que c'est l'un ou l'autre qui prend est-ce que c'est plus d'un côté? Est-ce que vous sentez que dans l'attachement de l'un à l'autre, c'est plutôt l'un qui je me sens très attaché et puis l'autre un peu moins? Voilà, c'est bien ou en tout cas pas de la même manière. Mais c'est bien de le nommer. N'ayez pas peur de nommer ce qui peut être aussi pour vous des lieux de croissance. des choses à travailler. Ça, aimer n'est pas spontané, aimer ça se travaille. Aimer c'est le fruit de l'intelligence et de la volonté. Ça se veut. Et de fait, qu'est-ce que vous demandera monsieur le curé le jour J, quand vous serez devant l'autel du Seigneur? Est-ce qu'il vous demandera est-ce que vous vous aimez? Il ne vous demandera pas si vous vous aimez. Il vous demandera quoi? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Et l'amour est dans la volonté, dans cette orientation du cœur. Est-ce que je le veux? Oui ou non? Est-ce que je veux, et qu'est-ce que je prends comme moyen pour que mon couple avance et que cette volonté, eh bien, elle s'enracine dans des actes concrets. Après la réciprocité, une autre condition à l'amitié, c'est l'égalité, dit Aristote, alors c'est l'égalité entre les amis. Et ça, je crois que c'est assez intéressant. Pour Aristote, par exemple, il disait, il ne peut pas y avoir d'amitié entre le maître et l'esclave. C'était encore un temps où il y a de l'esclavage, même s'il y en a toujours, mais en tout cas institutionnalisé. Il ne peut pas y avoir d'amitié entre un père et un fils, parce qu'il y a un déséquilibre. Et puis il ne peut pas avoir d'amitié entre Dieu et l'homme, parce que pour le coup, il n'y a rien à voir entre les dieux. C'est une. Hein, c'est. Voilà, c'est. L'homme. Donc c'est intéressant de dire. Il faut une certaine égalité entre les amis. Et une égalité, en tout cas, à laquelle je suis assez sensible, c'est la communion des intelligences. Ça veut dire quoi, la communion des intelligences? Ça veut dire la capacité, ça n'a rien à voir avec ni les diplômes, ni etc. C'est qu'on sent qu'on a une manière de percevoir les choses, on sent qu'on a une façon de percevoir, de réagir au réel, d'envisager choses et personnes, événements, assez semblables. Par exemple, s'il faut expliquer la blague à l'autre, ah, 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 d'accord, c'est drôle, c'est pour ça. Ah, ah, d'accord, ok. Tu vois, c'est plus du tout drôle. Si on sent l'autre est toujours à l'ouest, percute pas, parce que, ou elle, ou il, ben voilà, et que... voilà. Du coup, là aussi, c'est intéressant. Ou en termes de recherche aussi intellectuelle, ou en termes de curiosité intellectuelle, en termes de, est-ce que vous avez aussi pensé, parce que c'est une chose à laquelle on pense assez peu, à la communion des intelligences, vos manières de percevoir les choses, vos manières d'accueillir le réel, vos manières d'être curieux intellectuellement. Est-ce qu'il y en a un qui est au contraire très curieux intellectuellement, en désir de culture, d'activité culturelle, de livres, etc., etc. Et puis l'autre qui non. Je dis ça parce que progressivement il y aura un fossé. Et ce qu'il faut éviter, c'est des vies parallèles. C'est, malheureusement, on voit ça dans certains couples, des vies parallèles. Alors, pour la société, pour l'étiquette sociale, je ne sais pas quoi, ils restent ensemble, dans certains cas, pour les enfants, mais on voit bien, ils ne partagent pas. Ils partagent pas. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne partagent pas? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais une des raisons, en tout cas, qui font qu'ils ne partagent pas, ben c'est que l'intelligence de l'autre, je sens pas d'affinité. Je sens pas d'égalité dans ce sens-là. Encore une fois, ça n'a rien à voir ni avec les diplômes, ni avec l'érudition, etc. C'est une manière d'être connecté au réel. Une manière d'envisager choses et personnes. Hein, et du coup, c'est ça qui fait l'amitié aussi. C'est ça qui fait une certaine complicité entre vous. C'est qu'un coup d'œil, il n'y a pas besoin de mots. On s'est compris. On a percuté au même moment. Je veux dire, c'est ça qui fait l'amitié. Regardez vos amis autour de vous. Ben c'est des personnes, au fond, avec qui vous partagez ça. Une personne avec qui il faut tout expliquer, avec qui il faut, etc., etc., c'est beaucoup plus difficile. Hein. Évidemment, une égalité entre les amis. Alors, la question du milieu social. De ce point de vue-là, moi, je trouve qu'il n'y a pas de recette. Il y a pas, j'ai accompagné toutes sortes de couples. Hein, en ce moment, je suis en train d'accompagner elle, son papa est patron du CAC 40 et lui est artiste. Alors, le papa avait pensé à un autre genre, inutile de vous le dire, et il ne s'est pas privé de lui dire, le reste. Mais, moi, vous voyez, c'est, il faut, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de, c'est pas parce que, c'est pas parce qu'on coche toutes les cases de bon cato que ça va aller bien. Pas du tout. C'est parce qu'il y a une vraie communion, une vraie amitié, une vraie. Donc, le fait, ce n'est pas la différence qui me taraude, c'est surtout les disproportions, les inégalités, mais dans le sens de manière de voir le réel, mais aussi dans le sens d'envisager l'avenir, dans le sens de bon, etc., etc. Donc, essayez de voir de ce côté-là, même peut-être vous êtes de milieu, vous voyez des différences de milieu, ou même dans des milieux à peu près semblables. Il y a des sensibilités qui sont différentes. De toute façon, chaque famille est un monde. Donc c'est important, en tout cas, de pointer du doigt dans vos familles qu'est-ce qui est aussi dans le... Et c'est intéressant, par exemple, la préparation mariage matériel. Alors, je ne sais pas vous dans votre cas, mais bien souvent, c'est les parents qui essayent de prendre ça en charge. Alors, peut-être vous, ceux qui sont plus âgés, ben, c'est plus peut-être vous qui prenez ça en charge, etc. Mais c'est intéressant parce que c'est pas que matériel. La préparation au mariage, alors, est-ce qu'on fait un traiteur? Alors, comment on va s'habiller? C'est des choses sociales. Ça n'a rien de la religion n'a rien à voir là-dedans. C'est des trucs, est-ce qu'on va faire ceci, est-ce qu'on va faire cela, comment on va décorer la table, le nombre d'invités, quel argent on va mettre dans le buffet ou dans le machin ou dans le traiteur, etc. Toutes des questions matérielles qui vous font prendre conscience aussi des différences entre vos familles. Même si, grosso modo, vous êtes un peu de milieu à peu près semblable. Donc, c'est intéressant que vous soyez attentifs. Parce que ça, pour le coup, si vous pointez du doigt aussi, comment est-ce que vous avez été accueilli, par exemple, dans la famille de l'autre? Comment vous vous sentez dans la famille de l'autre? L'autre ne vient pas de nulle part. Hein, il vient d'une famille. Alors, on dit, oui, on n'épouse pas la famille. C'est plus ou moins vrai. C'est plus ou moins vrai. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là... est-ce que vous avez été bien accueilli dans la famille de l'autre? Est-ce que la famille de l'autre, au contraire, avait d'autres perspectives pour son fils ou sa fille? Est-ce que... voilà, c'est un peu du ressenti, c'est un peu au feeling, quoi. C'est des choses qui se travaillent. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, avec l'accompagnement que vous avez, que ce soit en paroisse ou que ce soit avec un prêtre qui vous accompagne plus personnellement, mais n'hésitez pas à dire, voilà, et puis n'hésitez pas à dire les choses. Et je trouve que vous êtes quand même dans une génération où vous dites beaucoup les choses. C'est-à-dire vous, c'est pas en mettant la poussière sous le tapis que vous allez résoudre les problèmes. C'est pas en... Vous voyez, moi j'ai été élevé dans une forme d'éducation, pas de conflit. Voilà. Pas de vague. On n'en parle pas. On apaise tout. Et il y a des familles, alors, où au contraire, ça crie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des familles, alors que chez vous, c'est très paisible, etc., parce que c'est le pas de conflit, le pas de vague, c'est poussière sous le tapis. Des familles où on sort tout, on déballe tout. Mais en même temps, il y a un grand amour. Mais c'est assez cash, quoi. Donc, c'est des manières de fonctionner, et je crois que de ce point de vue-là, c'est intéressant que vous puissiez pointer justement les formes d'inégalité ou des choses qui seraient à travailler, les choses qui seraient un peu à peaufiner, ou en tout cas, vous pointez du... Vous pouvez avoir des différences, vous pouvez avoir des désaccords. L'important, c'est que vous les pointiez du doigt en disant, ça va être peut-être problématique. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas de problème, ça n'existe pas, un couple sans problème, une vie sans... Quelle vie n'a pas sa tempête, quel couple n'a pas sa tempête. Mais au moins que vous puissiez dire les choses, et vous les dire, et peut-être les dire avec aussi votre accompagnateur ou dans le cadre de votre paroisse. Encore une fois, je trouve que la préparation au mariage, c'est une opération aussi vérité sur ce que je suis. D'où je viens, ce qui m'entoure, les choix que j'ai faits par le passé, d'autant que vous êtes autour de la plupart autour de la trentaine, 28, 30 ans. Bon, donc vous avez déjà une expérience. Donc, quel choix j'ai fait, etc. Donc, et je trouve ça, c'est ça qui est passionnant. C'est, on arrive tous dans le mariage avec une valise qui est le fruit de notre éducation. On l'ouvre et on trouve, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On a du passif, on a de l'actif, on a des choses positives. On a, qu'est-ce qu'on veut garder de l'éducation qu'on a reçue? Qu'est-ce qu'on ne veut pas garder de l'éducation qu'on a reçue? En quoi cette éducation-là, aujourd'hui, vient parasiter peut-être mon couple, rend la vie difficile avec l'autre, ou le rapport avec la famille de l'autre difficile. Bon, bref, toujours est-il, c'est des questions que c'est à vous de les aborder. Autre point, dans les conditions de l'amitié, donc dans les conditions de l'amour, la visibilité, dit Aristote, c'est intéressant, les amis aiment bien être ensemble, et quelque part, avoir une visibilité, être vu par les autres. Et ça, bon, vous en êtes déjà peut-être à une étape un peu avancée, mais quand un couple démarre un peu une relation amoureuse, moi je l'invite beaucoup à aller dans une certaine progressivité dans la visibilité. C'est-à-dire que c'est progressivement qu'on va officialiser, etc. Justement pour permettre la liberté, pour permettre le discernement. Parce que c'est parce que si tout de suite, et là aussi prenez conscience, il y a des actes qui engagent. Aller tout de suite dans la famille de l'autre un dimanche midi lors du repas familial avec le pater familias qui trône, la dinde magnifique qui est là au milieu, et puis voilà, c'est le repas. Bah, amener, bah, je sais pas vous dans votre famille, moi il est hors de question que dans ma famille il y a une fille qui débarque tous les quatre matins, parce que voilà, on présentait aux parents une personne avec qui on pensait faire sa vie, en tout cas. Bah, maintenant vous le savez bien, c'est parfois il y a aussi parfois des histoires qui se terminent parce qu'on a, après discernement, on a estimé que c'était pas possible. Mais en tout cas, soyez conscient que la question de la visibilité et de la progressivité dans la visibilité. Et à ce sens-là, dans ce sens-là, j'aimerais vous parler des fiançailles. Alors, ça, il y en a un qui m'a dit, tiens, mais parce que certains sont fiancés, d'autres sont pas fiancés. Alors, donc les fiançailles. En tant que tel, en tout cas dans la démarche de l'Église, c'est pas quelque chose d'obligatoire. On peut très bien être fiancé ou pas. En quoi ça consiste, les fiançailles? Déjà, au plan social et ensuite au plan spirituel. Au plan social, les fiançailles, c'est dire aux autres et se dire l'un à l'autre que l'on chemine vers le mariage. C'est les starting blocks pour le mariage. C'est là, clac, voilà, c'est... C'est-à-dire, sauf s'il y a problème, on va vers là, on va vers le mariage. Voilà, c'est ça que ça veut dire les fiançailles. Et donc, du coup, c'est le dire aussi aux autres, et c'est dans cette dimension de visibilité. Et le dire aux autres, et non pas, ben, je te présente ma copine, ou je te présente ma fiancée, mon fiancé, voilà. Parce que vous vous dites, l'un à l'autre, et devant les autres, et devant vos familles, et devant vos amis, ben, si tout se passe bien, après discernement, eh bien, on pense aller vers le mariage. Donc c'est la dimension sociale. Moi, je crois que la dimension sociale est aussi importante. Et donc c'est l'occasion, bah, c'est un peu selon les traditions familiales, sont différentes, mais c'est l'occasion, bien souvent, bah, d'un bon repas, de réunir les familles, bon, dans une certaine intimité aussi, et c'est pas la cour et la ville, hein, parce que, justement, parce que ça reste encore une étape, justement, pour garder toute sa splendeur pour le mariage, la célébration du mariage. Je trouve ça beau, d'autant plus que les étapes, dans la vie matrimoniale, ben, il y a à ma connaissance que cette étape-là que je connaisse. Je vois dans ma vie religieuse, par exemple, le nombre d'étapes que j'ai eues. D'abord, donc il faut postuler pour rentrer. Donc on est admis ou pas. Bon. Ensuite, on a le noviciat. Ensuite, on a les premiers vœux qui durent 3 ans. Et ensuite, on peut renouveler ses premiers vœux et jusqu'au vœu perpétuel. Donc, ça fait, grosso modo, un trajet de 6 ans. Alors, vous me direz, c'est vrai que la nature aide plus à une rapidité dans le mariage que dans la vie religieuse. Mais il n'en demeure pas moins que ces étapes-là m'ont donné confiance. Parce que ces étapes-là, il y a eu, d'une manière ou d'une autre, l'approbation, le discernement des supérieurs de l'époque qui ont dit, oui, ben, Pierre-Marie, on te voit bien dans notre communauté, on te voit bien cheminer, on te voit bien, etc., etc. Et puis, idem pour le sacerdoce. Hein, il y a l'appel, il y a le séminaire, etc. Dans la vie matrimoniale, alors, je vous précise que les vœux religieux ne sont pas des sacrements. vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, ce n'est pas des sacrements, c'est un mode de vie. Vous allez recevoir un sacrement, et qui plus est, c'est un sacrement à deux. Du coup, moi je trouve, en tout cas, dans la mesure du possible, que moi en tout cas je suis pro-étape, c'est-à-dire que les étapes, c'est ça qui donne confiance aussi. Vous voyez, par exemple, dans le scoutisme, peut-être certains d'entre vous ont fait du scoutisme, eh bien, dans le scoutisme, moi, ce que je trouve ça chouette, c'est vraiment une grande œuvre d'éducation de la jeunesse, c'est qu'il y a des étapes. Alors, t'es louveteau, t'es machin, ensuite t'es scout, le plus grand et le plus responsable et le plus petit, etc., etc. Et tout, je trouve que ça aide à prendre confiance en soi. Et dans la vie matrimoniale, somme toute, alors que c'est indissoluble, c'est-à-dire, sacrement à deux, dans une fragilité, on peut dire, sociale assez généralisée, je trouve qu'il y a peu d'étapes. Alors la seule, il y a plusieurs que je vois, déjà la demande en mariage, c'est vrai qu'il est mieux d'avoir demandé à l'autre s'il était d'accord pour se marier. Alors la demande en mariage, je trouve que c'est une belle étape, je ne sais pas si vous vous souvenez, se faire mémoire, où en général c'est l'homme qui demande, c'est social, c'est traditionnel, mais c'est peut-être votre fiancé qui vous a demandé, parce que vous ne décidiez pas, peut-être, ça c'est possible. Donc voilà, la demande en mariage, moi je trouve ça quelque chose de bien. Justement, vous voyez qu'il y a quelque chose parce qu'il y a quelque chose de... Parce que vous percevez aussi dans votre couple quelque chose de grand. Si vous venez frapper à la porte de l'église, et vous percevez dans votre couple quelque chose de sacré. Sans forcément y mettre tous les mots. Ça viendra progressivement. Mais en tout cas, vous... Donc voilà, dans cette demande de... Alors, dans certains milieux sociaux, etc., il est le bon ton d'aller demander la main de la fiancée au père de la fiancée. Alors, c'est des trucs sociaux. Mais pourquoi pas? Bon, voyez, ensuite, les fiançailles. Et donc, du coup, je trouve que c'est. Voilà, je vous invite maintenant, si c'est possible, c'est pas possible, mais en tout cas, juste pour vous redire le sens. Parce que. Il y a une dimension sociale, mais il y a aussi une dimension spirituelle dans les fiançailles, dans le sens où, bien souvent, ça se passe comme ça, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est que les familles participent ensemble à la messe, si ça se fait un dimanche, et puis, ensuite, à l'issue de la célébration, et non pas pendant la célébration eucharistique, eh bien, on va demander au prêtre la bénédiction. Donc, vous demandez aussi l'aide du Seigneur pour cheminer ensemble vers le mariage, parce que vous vous sentez aussi pauvre face à cet engagement qui est à la fois magnifique et à la fois vertigineux, d'une vie commune, voilà, je pense que c'est, et d'autant plus que vous en prenez à peu près pour 50 ans, quoi. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on se dit, mais voilà, vous êtes comme des pauvres, vous venez auprès du Seigneur, aide-nous à cheminer dans cette préparation qui nous conduira ou pas vers le mariage. Donc, en laissant toujours la porte ouverte vers ça. Et puis, une autre condition de l'amitié, c'est la bienveillance. Et c'est, je pense que de ce côté-là, la bienveillance, c'est quelque chose toujours à travailler. Parce que c'est pas facile d'être bon et intelligent à la fois. Parce que l'intelligence est une lumière. Et l'intelligence est une lumière, c'est-à-dire que c'est une lumière qui permet qui voit les choses. L'intelligence voit. Et de fait, on perçoit l'intelligence d'une personne beaucoup plus dans ses yeux que dans ses doigts de pied. Donc, du coup, c'est le fait de voir. Et donc, l'intelligence, elle est là. Mais en même temps, quand on voit l'autre, forcément, un peu comme une lampe qu'on mettrait sous un tissu, une lampe forte, du coup, la trame du tissu ressort tout de suite, et peut-être ses imperfections aussi. Donc, c'est intéressant à la fois de pointer peut-être les défauts de caractère, les difficultés de l'autre, mais de garder cet a priori de bienveillance, et de ce fait-là, cet a priori de foi. Et est-ce que vous vous accueillez de la main, est-ce que vous vous voyez comme un don du Seigneur, l'un pour l'autre? Ça, c'est à chacun à répondre dans votre cœur. Est-ce que je vois l'autre comme un don de Dieu? Comme alors certains le nommeront pas tout de suite, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes au plan spi, hein, donc certains, bon, je pense que vous êtes plutôt de tradition catholique, là l'immense majorité, plus ou moins pratiquants, etc. Mais justement, je trouve ça beau de que vous frappiez à la porte de l'église, parce que justement, c'est remettre les pieds dans la vie spirituelle, parce que qui est souvent mise entre parenthèses, bon, on garde ça jusqu'au lycée. Ensuite, bon, la vie étudiante, c'est... Bon, grosso modo, c'est même pas d'actualité pour beaucoup. Moi, j'étais aumônier d'étudiants pendant tout un temps, j'ai bien vu le truc. C'est pas leur souci, la vie spirituelle. Et puis ensuite vient la vie professionnelle, où là, il y a un petit retour avec des jeunes professionnels, etc. Et a fortiori, la vie matrimoniale, la préparation au mariage, où là... Et là, je trouve ça intéressant de dire, voilà, est-ce que cette bienveillance, est-ce qu'au fond, est-ce que je la... Où est-ce que j'en suis de cette bienveillance? Où est-ce que je suis tout de suite prompt à voir le défaut de l'autre, hein, à voir le point noir dans la page blanche? Est-ce que... Et donc transformer... C'est très facile de transformer l'autre en une liste de défauts. C'est facile. On est tellement fait de creux de bosse. Vous savez, d'autant plus que la relation avec l'autre, forcément, va, encore une fois, va manifester des choses, va faire un effet miroir. J'aime à dire qu'il n'y a pas de problème de couple, il y a des problèmes que de personnes. C'est des personnes qui, en couple, ont des difficultés à vivre. Que ce soit pour gérer leur colère, pour gérer leur violence, gérer leur paresse, gérer la question du temps, le rapport à l'argent, le rapport au corps, etc. etc. C'est, au fond, il y a... et donc, vous pouvez rendre grâce au Seigneur si vous avez eu des éducations équilibrées, ou vous sentez... Voilà, vous arrivez dans la vie matrimoniale quand même avec... un plus et puis une... Oui, parce que... Mais bon, d'autres ont des vies plus difficiles. Le traumatisme lié à des deuils, à des séparations des parents, à des problèmes de santé, à des... etc. etc. Donc, voilà. Tout, en tant que tel, c'est pas une difficulté. C'est juste que, est-ce qu'on a pris conscience de ça pour avancer, et qu'est-ce qu'on met en face de ça? Parce que, moi, ce que je vois, c'est que un peu, c'est un peu cette dérive romantique, un peu chez les fiancés. Voilà, on s'aime, etc. Un peu, voilà, on se regarde avec des yeux de merlan frit, formidable. Voilà, mais on n'a pas cette prise de conscience, peut-être des difficultés à venir, alors que je suis intimement persuadé qu'au moins 80% des difficultés des couples se voient pendant la préparation au mariage. On laisse 20% parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne peut pas voir. Mais en tout cas, connaître quelqu'un, si on est attentif, il y a beaucoup de choses. Vous savez, somme toute, on change peu. On change surtout quand vous avez 28, 30 ans, c'est à peu près, voire plus pour certains. Vous allez changer à la marge. Des petits trucs, vous allez changer. Mais on change relativement peu. Et donc, du coup, c'est important de se dire, cette personne-là, est-ce que je l'accueille de la main du Seigneur, mais est-ce qu'aussi il y a une compatibilité de caractère qui m'aide à avancer, à envisager une vie commune avec lui, avec elle. Ça va jusqu'à présent? C'est bon? C'est bon? C'est clair? Bon, c'est facile. Alors, c'est facile à dire. C'est difficile à mettre en pratique. Purification des motifs. Pourquoi est-ce que je veux faire vie commune avec Gertrude ou Gaston? Pourquoi est-ce que je veux faire... De mettre... Tout mariage d'amour est un mariage de raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des raisons pour aimer l'autre. Et pourquoi c'est important, ça? Parce que quand arrive le moment de l'épreuve, quand arrive le moment de la difficulté, je fais mémoire des raisons qui m'ont poussé à l'engagement avec l'autre. D'où l'importance d'arriver à une certitude intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on va tout contrôler, ça ne veut pas dire que tout va être... Mais arriver à une certitude intérieure. Est-ce que... quelles sont les raisons? Je me souviens de cette femme, par exemple, qui me disait, il y a 15 ans, bien, je me suis marié, pour telle et telle raison avec mon époux. Aujourd'hui, c'est pour les mêmes raisons que je suis avec lui. Mais la question des raisons, des motifs, parfois apparaissent après. Et donc, avec les épreuves, il peut y avoir une forme, ou avec les étapes de la vie, il y a une sorte de purification des motifs. Je pense à cette autre femme qui, épousant un militaire, jusque-là, pas de problème, mais comme il arrive souvent dans la vie de militaire, au bout de 40 ans, la quarantaine, etc., on est déjà officier, etc., on va dans le civil. Grosse crise matrimoniale. On vous dirait, ça, non, c'est une évolution assez normale dans la carrière militaire que d'aller vers le civil, c'est une formation d'ingénieur, bien souvent. Bon. Parce qu'elle s'était rendue compte, au fond, elle avait épousé les galons. Et elle s'était rendue compte qu'elle avait épousé un idéal d'homme. Avec toutes les valeurs formidables aussi que porte la profession militaire, évidemment. Donc, du coup, je crois que c'est... Vous voyez, les motifs, quels sont les motifs qui me poussent à épouser l'autre? Quelles sont les raisons, hein? Qu'est-ce qui va être aussi pour... Et parfois, les épreuves, justement, m'aident à purifier les motifs. Est-ce que c'est les motifs parce que, voilà, j'ai déjà 35 ans et qu'il faut peut-être, surtout pour les demoiselles, ça commence à devenir un âge un peu compliqué. Parce que, voilà, je veux construire et donc, du coup, voilà, je veux me caser. Donc, l'utile, le motif est utile. Mais on vous comprenez bien, on se le dit pas comme ça. Et surtout, vous ne le dites pas à l'autre comme ça, parce que sinon, ça peut être compliqué. Mais vous ne le dites pas comme ça. Et donc, du coup, ça peut être aussi des motifs, mais utiles dans le sens... Mais là, encore une fois, c'est souvent inconscient. Utile parce que je me sens protecteur par rapport à l'autre. Je sens que je vais être, par rapport à l'autre, un protecteur, je vais prendre soin de lui, c'est être dans une sorte de dimension de protection, etc. Voilà, des différents motifs. Ou alors simplement parce que l'autre me fait rire. Mais je ne suis pas attaché à la personne de l'autre. Je suis attaché à quelque chose d'agréable dans l'autre. Où il a une belle tête, où il est belle, où il est beau, elle est belle, il est beau, etc. La côté physique. Mais on ne s'est pas attaché à l'autre en tant que tel. Oui. Ah oui, c'est l'objet de notre méditation. Je vais donner un exemple. Mussolini avait une maîtresse. Donc ça c'est pas du tout un exemple à imiter. Et cette maîtresse était très attachée à lui. Arrive la fin de la guerre, Mussolini est condamné à mort, et on dit à son amante, on lui dit, qui était l'amante officielle, bon, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse... On a une petite porte de sortie pour vous. Vous pouvez avoir la vie sauve, on vous envoie en Amérique latine, je ne sais pas, à cette époque-là, c'était votre trajet vers l'Argentine, etc. Et elle dit non. Je l'ai aimé dans la vie, je l'aimerai dans la mort. Être attaché, je trouve ça, même si le cadre est un peu particulier, c'est sa personne, c'est pas parce qu'il était le Duce, c'est sa personne, c'est ce... Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile, parce que, comme tu dis, il y a des tas d'attributs, mais si un jour l'autre tombe malade, je serai de l'aimer. J'ai aimé, c'est la même chose avec le Seigneur, c'est Sainte Thérèse d'Avila qui dit, est-ce que tu aimes les dons de Dieu ou le Dieu des dons? Est-ce que tant que ça fait la vie de foi, ça te porte, ça te met la prière, tu es en extase formidable, ça te caresse dans le sens du poil, et puis quand il n'y a plus rien, tu es encore avec moi, tu es encore avec le Seigneur, ou tu es parti? Donc ça veut dire que, mais c'est la c'est pas facile à expliquer, mais en même temps la question est essentielle. Alors bien sûr que la personne se manifeste par les attributs, mais si d'aventure l'autre, par exemple, connaît une période de chômage, on va prendre quelque chose de moins dramatique que pour le premier exemple, est-ce que c'est l'ingénieur, est-ce que c'est le technicien que j'ai épousé, est-ce que c'est l'infirmière que j'ai épousé, est-ce que c'est vraiment, même si tu es dans une période, en fait, où est-ce que ça se voit, c'est dans une période de fragilité. Quand l'autre est en fragilité, est-ce que je continue à l'aimer? Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, et c'est pas si évident que ça à dire. C'est souvent quand on est dans l'épreuve. L'épreuve, on en parlera peut-être plus demain, mais je trouve que et peut-être vous avez connu aussi des épreuves, vous, comme couple, que ce soit par l'accueil de vos familles, par votre cheminement personnel, ou dans votre vie avant de faire chemin. L'épreuve vient manifester à l'extérieur ce que je porte à l'intérieur. L'épreuve, c'est comme une faute, ceux qui ont connu le temps de l'argentique, je suis peut-être le seul à l'avoir connu, c'est là, bon, l'argentique, c'est-à-dire on plongeait, on imprimait donc sur un papier le négatif, et ensuite on plongeait dans un révélateur, puis ensuite un fixateur. Voilà, l'épreuve, c'est un révélateur. Est-ce que je suis attaché? Est-ce que c'est l'autre auquel je suis vraiment attaché? Ou est-ce que c'est son statut, c'est sa beauté, c'est sa santé, c'est tous les attributs, bien sûr, qui ont fait que les attributs, c'est ce qui m'ont permis de tomber aussi amoureux et amoureuse. C'est ces attributs. Mais est-ce que je lui reste attaché? Est-ce que je lui resterai attaché dans la vieillesse, dans le grand âge? Je trouve ça très beau, des couples aussi qui vieillissent ensemble. Mais le grand âge, bien souvent, c'est aussi le grand naufrage. Hein. Tu perds tes capacités, faut s'occuper de toi. Est-ce que là, je serai encore attaché à ta personne? Ou est-ce que je suis dans un égoïsme à deux, au fond? Mais c'est pas facile de répondre. Il y a les deux qui sont dans notre cœur. Vous savez, vous, les deux sont dans notre cœur. Même par rapport au Seigneur, est-ce que je suis attaché au Seigneur en tant que tel, ou à ce qu'il me donne, aux valeurs chrétiennes, ou est-ce que c'est ça, la personne de Jésus qui m'attire? D'autres questions par rapport à ce que je viens de dire, parce que c'est des questions qui sont super importantes. C'est bon. Critère de discernement. Alors, ça peut vous intéresser. Critère de discernement pour voir, voilà, si faire route commune vers le mariage ou non. Moi, j'en vois plusieurs. Premièrement, facilité et aptitude à s'entendre. Que ce soit une certaine facilité, je veux dire, que ce soit une certaine simplicité. Bien sûr, il peut y avoir des combats, bien sûr, il peut y avoir des... Mais si on sent que c'est à chaque fois, il y a des... C'était, si vous voulez, vous épousez pas un défi. C'est pas un défi que j'épouse. Si à chaque fois, il faut mettre une énergie dingue pour reconstruire le lien, pour reconstruire, pour faire avancer le schmilblick, pour etc., etc. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes amené à cheminer ensemble ou pas? Un critère de discernement, c'est aussi, est-ce que je suis capable de vivre une certaine vie de solitude? Ou est-ce que, au fond, j'ai peur de la solitude? Là aussi, c'est un motif qui peut parfois arriver. J'ai peur de la solitude, il faut que je sois avec quelqu'un. Encore une fois, on va pas le dire comme ça, parce que ça, c'est un peu brut de fonderie. Mais en tout cas, dans la manière de le vivre, ce sera comme ça. Alors, d'où l'importance aussi, vous avez des temps ensemble, on a vu que l'amour tendait à la vie commune, mais aussi... l'amour, le fait d'aimer, c'est aimer l'autre en l'absence de l'autre. C'est-à-dire, vous ne voulez pas faire toutes les choses en même temps, tout le temps. C'est là, un piège dans l'amour, c'est ce qu'on appelle la fusion. Un couple fusionnel. Hein, scotché l'un à l'autre. Justement, ils s'appellent, un certain manque de confiance, un certain manque de sécurité dans l'amour de l'autre. Comment est-ce que je suis sûr de l'amour de l'autre? C'est qu'en son absence, eh bien, je suis paisible. Et réciproquement. Je suis paisible par rapport à sa fidélité, je suis paisible par rapport à ses intentions. Ça n'empêche pas de se donner des nouvelles, mais... Donc du coup, c'est intéressant de voir que... Attention à la fusion, parce que cette fusion, c'est un manque de confiance. Alors on fait tout ensemble, c'est un peu adolescent, etc. C'est pas, à mon avis... Quelque part, il y a à vivre dans la vie amoureuse, à la fois un attachement, mais pour un détachement. C'est-à-dire que il y a à la fois, bien sûr, vous êtes attachés l'un à l'autre, mais à la fois pour un détachement, c'est-à-dire que voilà, vous êtes aussi autonome. Vous avez vos vies professionnelles, vous avez peut-être vos cercles d'amis, vos activités, vos hobbies, etc., etc. L'important, c'est que ce soit pensé ensemble. L'important, c'est passer du je au nous. Est-ce que vous êtes passé du je au nous? Est-ce que vous pensez à nous, ou est-ce qu'encore vous pensez, bon, l'agenda? L'agenda, c'est quelque chose de très instructif. Il y aurait toute une méditation à faire sur l'agenda. Est-ce que je prends les engagements, je consulte l'autre ou pas? Est-ce que je suis encore dans un mode de célibataire, ou est-ce que je suis déjà dans un mode de couple? Vous voyez, donc c'est aussi c'est des petites choses. Est-ce que donc cette importance du passé du jeu au nous, justement, de l'état de célibataire à l'état de couple, hein. Et puis, puis plusieurs critères qui peuvent être intéressants, c'est les critères qui ont à voir avec le bonheur, la joie, la paix, la certitude intérieure. C'est pas parce qu'il peut y avoir des combats, il peut y avoir des moments difficiles, mais en tout cas que ce qui prédomine, c'est la joie, le bonheur, la paix, la certitude. C'est ça qui doit prédominer quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que sinon, ça va être important, un peu difficile à vivre. J'aimerais donc vous distribuer maintenant la question de l'échange des consentements. Alors, hop, hop, hop. Alors, il m'en faut une pour moi aussi. Donc, il y a une par couple. Et on va revoir des trucs. Voilà, si vous ne pas passer aussi là-bas. Une pour deux. Donc, moi j'aime bien méditer sur la liturgie. Bon. C'est bon? Afin que vous soyez unis dans le Christ et que votre amour transformé par lui devienne un signe visible de l'amour de Dieu, hein, c'est ce qu'on a vu, le sacrement, signe visible de l'amour de Dieu. Hein, on ne demande pas, juste un petit point par rapport au sacrement, c'est seulement dans l'Église catholique et orthodoxe qu'on parle du mariage comme sacrement. Dans les autres religions, c'est des bénédictions. Ça veut dire quoi, des bénédictions? C'est-à-dire, même dans l'Église, peut-être certains d'entre vous recevront le sacrement à l'intérieur d'une messe, d'autres recevront le sacrement du mariage comme bénédiction, qu'on appelle. Mais dans les deux cas, c'est sacrement. Mais par exemple, dans la tradition juive, dans la tradition musulmane, dans les traditions asiatiques, c'est une bénédiction. C'est-à-dire qu'on demande à la divinité de venir bénir le couple. Là, c'est pas. On demande aussi de venir bénir le couple, mais c'est pas du tout du même ordre. Le fait que ce soit un sacrement, c'est que vous dites, nous, comme couple, non seulement on veut recevoir la bénédiction du Seigneur, mais nous, comme couple, on veut être signe de cet amour du Seigneur pour nous. C'est ça, c'est le sacrement. Hein? Donc, devenir un signe visible de l'amour de Dieu, devant l'Église ici rassemblée, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Alors, Astrid, elle s'appelait Astrid. « Veux-tu être mon épouse ?»« Oui, je le veux. » Alors voilà. Non mais attends, mais j'ai pas bien commencé par la bonne feuille. Attends. Non, je suis bourré. Il faut revenir en arrière. Non, mais ça ne sera pas comme ça le jour de la célébration, parce que là, ça va être un peu... Voilà. Dialogue avec les futurs époux. Vous y êtes là? C'est de l'autre côté, là. Dialogue avec les futurs époux. Appel des témoins. Oui, je mets ça en gros, parce que j'oublie toujours les témoins, les appeler, et c'est important de les appeler. Juste un truc sur les témoins. Je ne sais pas si vous avez déjà choisi vos témoins ou pas, non, la plupart, ou... Bon. Bon, grosso modo, c'est la fonction de pot de fleurs. Je veux dire, faut pas leur dire parce que ça peut éventuellement les vexer. Mais les témoins, je trouve qu'ils sont largement sous-estimés dans la liturgie. De fait, il ne faut pas être forcément catholique pour être témoin. Il faut juste être témoin. À la différence du parrain ou de la marraine, il faut être confirmé. Hein? Bon, maintenant, on diminue un peu parce qu'on n'a plus beaucoup de confirmations. Mais bon, alors du coup, l'appel des témoins. Et le fait des témoins, c'est de dire que votre engagement, moi j'aime bien les appeler par leur prénom, et de dire que votre engagement engage les autres. Si c'est un engagement personnel, ce n'est pas un engagement solitaire. C'est pas vous deux, dans un cocooning admirable. Non, c'est un engagement qui rayonne. Parce que l'amour est diffusif de soi. L'amour rayonne. Et donc, chère Astrid Cécile, vous êtes venue dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contracter mariage en présence du ministre de l'Église et devant la communauté. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal. Bon, ça c'est bien. Pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et apporter ensemble toutes les responsabilité du mariage, il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ce qu'il a déjà consacré par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Donc c'est intéressant de dire plusieurs choses dans cette prière-là. Alors, je ne sais pas vous, moi j'invite beaucoup ceux que j'accompagne à rentrer vraiment dans la liturgie. Hein, à construire votre... Moi je leur demande carrément un déroulé de A à Z. Du coup avec prière eucharistique, les préfaces, etc. Du coup, mettez... Je pense que vous avez largement la... En tout cas, ça va être peut-être la seule messe dans laquelle vous allez rendre... Que cette messe soit aussi à votre image et ressemblance, d'une certaine manière. Et donc, il y a aussi des choix, non seulement des textes, mais des choix de... Je rappelle la préface, des choix de prière eucharistique, des choix de bénédiction, etc. Dans le rituel du mariage, il y a des choix assez, assez vastes. Donc c'est intéressant de voir sur quelle chose nous parle plus qu'une autre. Et là, il y a une chose que j'aime bien... Afin de se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage, il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous présentez au Seigneur devant comme des pauvres. Vous présentez au Seigneur comme des personnes qui ont besoin de son aide. Le mariage, c'est l'union de deux pauvres. Voilà, Seigneur, aide-nous à nous aimer parce qu'on n'y arrivera peut-être pas. Et donc, on demande ton aide. Alors, Cyril, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage, est-ce librement et sans contrainte? En général, on répond oui. Si on répond non, ça s'arrête là. Non, mais séparément, ça c'est aussi intéressant. Ensuite, et ça c'est bien que ça s'entende. Donc c'est bien d'avoir un micro qui marche. Oui, oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect, est-ce pour toute votre vie? Donc là, c'est l'indissolubilité. Oui, pour toute notre vie. Oui, oui, séparément. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Donc là, cette dimension de fécondité. Non seulement de fécondité, mais d'éducation dans la foi de l'Église. C'est-à-dire, vous engagez aussi à éduquer chrétiennement vos enfants. Ça, c'est aussi important de le rappeler. Alors oui, oui, séparément. Et puis il y a une réforme de la liturgie en 2006 qui dit « Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église ?» Et oui, ensemble. Je trouve ça très beau d'avoir rajouté cette question-là. Au fond, la messe de mariage est conçue comme une messe d'envoi. Vous êtes envoyés au monde. Et que votre amour matrimonial rayonne, que ce soit dans un engagement professionnel évidemment, mais dans un engagement, je pense, social, dans un engagement syndical, dans un engagement quel qu'il soit, mais prenez conscience que ce n'est pas un enfermement à deux, mais aussi que comme à deux, eh bien, vraiment vous rayonnez dans cette dimension-là. Hein. Et ensuite vient l'échange des consentements, donc donnez-vous la main. Échanger vos consentements. Veux être mon épouse? Oui, je le veux. Donc on a parlé de je le veux. Veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. Voilà. Moi, Cyril, je te reçois, Cyril, comme épouse et je serai ton épouse. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. J'aime bien cette formule. Il y a trois ou quatre formules possibles pour l'échange des consentements aussi. Hein. Donc c'est intéressant. Je trouve ça beau parce que. Premièrement, donc oui, je le veux. Et j'aime bien la phrase de Bismarck la veille de ses noces, qui dit à sa fiancée, je ne me marie pas avec vous parce que je vous aime, alors un peu fait la gueule, mais pour vous aimer, ce qui est beaucoup plus rassurant. C'est-à-dire que je me marie avec vous pour faire grandir l'amour entre nous. Et moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire grandir l'amour entre vous? Parce qu'on voit le mariage comme le sommet. Pas du tout. Bien sûr, c'est l'aboutissement de quelque chose. Mais qu'est-ce que vous... Et ensuite, ça se casse plus ou moins la gueule là, jusque dans la vie éternelle. Mais vous êtes au début de votre... Qu'est-ce que vous allez mettre en... Sachant que ce n'est pas spontané. Sachant que personne ne peut prendre la décision à votre place. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme, je pense au niveau spirituel, de s'engager à une retraite par an. De se dire que, justement, comment faire pour m'en faire mentir les statistiques? Les statistiques de séparation. C'est-à-dire, vous êtes 35 couples, je vais être un peu raide. Si on voit les statistiques, eh bien dans 10 ans, il y en a 11 qui ne seront plus ensemble. C'est vrai que ça calme. Oui, non, mais c'est, voilà, maintenant, l'Église n'a que l'amour pour travailler. Du coup, qu'est-ce que je mets en place, sachant que les 11 qui ne sont plus, qui ont été avec vous plein de générosité, plein d'enflamme, peut-être plein de foi aussi. Hein? Mais ils n'ont pas su, quelque part, mettre en place des choses. On a tous besoin d'une rampe. Ne nous croyons pas plus forts, hein? Ne disons pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On est tous des pauvres ici. Moi le premier. Ne croyons pas que ça se fait tout seul. Alors, l'autre dit la même chose, en général, oui, ça c'est bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis ensuite, donc, le prêtre qui reçoit le consolat posera la main, ouais, ça c'est un très bon moment ça. Il pose la main droite sur les fiancés sont donnés la main, hop, hop, pose la main, et clac, il pose la main, et ce consentement que vous venez d'exprimer, en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme, qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et hop, c'est parti. Voilà, je trouve ça très, très beau, c'est à la fois cette invitation à la fidélité, à la fécondité, à une fidélité qui avance. Attention, juste un petit mot avant de terminer. Une fidélité qui avance. Être fidèle, je veux dire, c'est pas seulement ne pas aller voir à côté. Je veux dire, c'est le minimum syndical. Être fidèle, je peux très bien fermer mon cœur à l'autre et quelque part lui être infidèle. Je suis infidèle à l'engagement que j'ai pris à rentrer dans une logique de don avec toi. Parce qu'aimer, c'est rentrer dans une logique de don et d'accueil du don de l'autre. Et si je ferme mon cœur parce que je suis en colère, parce que ça peut être une étape. Mais, et du coup, ça, c'est une, même si je ne vais pas voir ailleurs, ça peut être une forme d'infidélité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de dire que cette fidélité, c'est une fidélité non seulement statique, mais une fidélité dynamique. C'est une fidélité qui avance. Hein, justement, dans un amour plus grand. Dans 10 ans, si un jour on se recroise dans 5-10 ans, oui, maintenant, on a un amour qui est peut-être différent du jour de notre mariage, un amour qui a évolué, qui a évidemment... mais que ce soit toujours au centre de votre couple. Je parle par rapport aux enfants. C'est, l'arrivée des enfants n'est pas à mettre de côté le couple. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a des enfants que le couple ne reste pas au centre. Et ça, je pense, de ce côté-là, c'est important de le souligner. Avant de prendre un champ, est-ce que vous avez des questions? Nous allons nous arrêter là, comme ça. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous interrogent? Dites-nous. Oui, vas-y.
C'était dans le chapitre de la bienveillance, on va dire. Vous avez parlé du changement, vous changez peu. Est-ce que éventuellement vous pouvez développer un peu?
C'est-à-dire que là aussi, c'est important de voir aussi la stabilité de la personnalité, tant de soi-même que on évolue peu, c'est-à-dire, je pense par exemple, le rapport au temps. C'est quelque chose, on peut travailler, il y a des choses qu'on peut travailler. Mais un peu le cœur de la personnalité, quelqu'un qui sera plus secondaire dans son approche, c'est-à-dire plus en retrait par rapport au réel, donc qui a peut-être plus besoin de temps pour réfléchir et donner une parole, va pas devenir quelqu'un d'hyper impulsif. C'est un peu dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui a la colère, colérique. Ça se maîtrise pas toujours, la colère. Quelqu'un qui est colérique, etc., pourra travailler sur lui-même, mais c'est aussi peut-être dû à des blessures d'enfance, c'est aussi peut-être dû à une psychologie qui est comme ça, et que je me mets. Et qu'il y a des trucs, je pète les plombs, quoi. Si le premier geste vous échappe, que le deuxième ne vous échappe pas, c'est-à-dire le geste de demander pardon. La dimension du pardon est essentielle dans le couple. On a tous le droit d'avoir nos fragilités. C'est l'union de deux pauvres. mais on a aussi tous une responsabilité dans le pardon donné à l'autre. En termes de manière de fonctionner de l'intelligence, il y a des intelligences intuitives, il y a des intelligences analytiques. Donc ça change pas. Je veux dire, pratiquement, vous voyez, je ne sais pas si je suis plus clair comme ça, c'est dans ce sens-là, on change dans le fond. Alors, il y a des trucs qu'on peut un petit peu travailler, bon, c'est vrai, mais. Et puis, je veux dire, plus on vieillit, on change. Donc, bon, voilà, et que, on change un petit peu à la marge. Alors que, il y a des trucs qu'on peut faire. Mais, en tout cas, ne comptez pas sur l'autre qui change en disant ça ira mieux après le mariage. Ça, c'est pas possible. C'est vous aimez et vous épousez un tel, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'elle est aujourd'hui. Sinon, vous allez dans le mur. C'est bon, vous êtes avec les... Vous nous proposez un petit chant. Ou d'autres questions, peut-être, ou d'autres... Alors, le couple peut être un révélateur à un moment donné, très certainement. Du coup, ça, très certainement, il peut être un révélateur. Nos artistes préparent la partition. Ça peut être un révélateur. Mais j'allais dire, ce révélateur, si on a été attentif, déjà dès la préparation au mariage, d'où l'importance de passer du temps ensemble, eh bien, dès la préparation au mariage, eh bien, on peut voir des choses. Je vais vous donner un exemple. Je ne l'ai pas connu, mais un couple comme ça de fiancés fait une croisière transatlantique avec d'autres amis, etc. etc. Bon, en bateau pendant 6 jours, puis vous ne pouvez pas sortir faire un tour dehors, hein, je veux dire, en Atlantique, dans le genre révélateur, ça se place là. Hein, si vous voulez connaître qui est qui, ça, c'est... De même, si vous voulez faire des marches du chemin de Saint-Jacques ou un truc comme ça, ça peut être un bon révélateur. Il y a beaucoup de manières de connaître l'autre sans vivre avec l'autre, je trouve. Il y a beaucoup de... Et alors, dans cette fameuse croisière, voilà, traversée à la voile, il y a eu, comme ça arrive en plein Atlantique, un grain, voilà, tempête. La fille, hop hop hop, elle monte sur le pont, elle ramène les voiles, etc., elle est au taquet, ça. Lui, rien. Électroencéphalogramme plat. Elle arrive au bord, au port, elle fait comme ça, la bague de fiançailles, c'est pas ce style d'homme qu'il me faut. Je pense qu'il s'en souviendra de sa traversée, mais on peut beaucoup, il y a beaucoup de choses qui manifestent l'autre, qu'on disait la personne de l'autre, justement, dans des moments où il faut aller dans un don plus grand de soi-même. Est-ce que je reste en deçà ou je vais au-delà? Est-ce que je suis dans la générosité, dans un amour, un grand amour? Ou est-ce que je suis dans un égoïsme, mais bon. Attention, ils sont assez nombreux là-haut. Moi, je reste dans ma cabine. Donc, en même temps, il y a aussi parfois chez certains couples un effet d'apnée. C'est-à-dire, on retient son souffle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, de même dans la vie religieuse, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, la vie religieuse. De ce point de vue-là, c'est en termes de connaissance de l'autre, c'est que bien souvent, c'est après les vœux perpétuels qu'un certain nombre de failles ou de fragilités chez le frère se manifestent et sont visibles. Un peu parce que du coup, voilà, maintenant, quelque part, il est un peu rassuré, il a, etc. Mais je crois surtout, voilà, 8 ans de probation, on peut largement discerner avant. Mais en tout cas, soyez attentif à la manière dont l'autre fonctionne. Et c'est ça qui n'est pas facile. C'est quand on est jeune, on n'a pas forcément par définition l'expérience. On ne peut pas être et avoir été. Et donc, du coup, mais en tout cas, faites-vous aider de conseils de personnes qui peuvent vous soutenir. Comment est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interrogent? Le rôle des témoins, c'est aussi ça. Mais le problème, moi, j'écris aux témoins. Le problème, c'est que il y a des gens qui voient des choses, arrive la séparation, ah, je l'avais bien dit. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Il y a un manque de courage. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé à un couple, je lui ai dit, écoutez, ça va pas le faire, quoi. Alors, c'est pas marrant comme prêtre de faire ça, mais quand vous voyez le couple arriver épuisé par ces engueulades, vous vous dites, ça ne va pas être possible comme ça. 50 ans, ça ne va pas le faire. Ils vont se lasser. Et les autres aussi. Donc du coup, je vais dire, voilà, je vous invite à un temps de séparation, un temps de réflexion. Donc soyez juste attentif, assez confiant bien sûr, mais en même temps lucide, quoi.